On est toujours en direct du Centre culturel de Chabeuil pour la 20e édition des Rencontres de la photo de Chabeuil. Et on termine notre après-midi avec le fil rouge du voyage, avec une petite table ronde très décontractée, hein, rassurez-vous, on fait pas... Voilà, mais c'est simplement pour parler du voyage, justement, d'une autre manière. Et j'accueille maintenant donc Édouard Bondaz. Bonjour Édouard.
Bonjour Sylvie.
Qui présente une exposition Ladakh, le pays des hauts cols. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve à la MJC. Jean-Pierre Duverger, alors en fait, tu en as deux expos.
Oui.
Oui, parle dans le micro.
J'expose en off avec le collectif 1921. Qui devait être 19-20, mais qui s'est transformé en 19-21. et là, j'expose huit portraits, de Wilson en Caroline du Nord, mm-hmm. en couleur, mm-hmm. et par ailleurs, dans le Hin,
vraie Éthiopie,
sur les grilles de la piscine, juste derrière le centre culturel, l'Éthiopie, 62 tirages, grand format, en 111 sur 74, qui décrivent tout simplement notre voyage découverte en Éthiopie. Voilà.
Et là, on est en noir et blanc. Donc.
Et là, on est en noir et blanc.
Et puis, on retrouve Jean-Marc Gemblin, président de Click Image, et pour avoir justement aussi le côté Click Image dans un club, comment on parle de la photo de voyage, comment on aborde cette photo de voyage. Alors, photo de voyage, c'est un petit peu, ça peut paraître un peu réducteur, et encore que, parce que tout le monde, toutes et tous, toutes celles et ceux qui ont eu la chance de voyager, on a tous fait des photos. Alors, c'est des photos avec notre téléphone, c'est des photos souvenirs, etc. Qu'est-ce que c'est exactement que la photo de voyage pour vous? Est-ce que ça existe d'abord, cette terminologie finalement de photo de voyage? Édouard?
Oui, enfin, c'est un instantané qu'on prend sur des visions que l'on a à des moments précis, dans des univers que nous ne connaissons pas, que nous découvrons. Et puis, on a envie d'immortaliser ces moments et voilà, c'est... Puis en plus, c'est le tic du photographe. Hein, donc,
de toute façon.
On a un appareil à photo à la place du cerveau.
Jean-Pierre, la photo de voyage?
Pour moi, je ne me considère pas comme un voyageur. C'est-à-dire, quand on entend Pascal Maître, qui lui est resté plusieurs mois... Non, moi, je suis... J'ai un certain âge. Et donc, j'ai le monde entier à découvrir. Je ne reste pas longtemps dans un pays. Pour l'Éthiopie, on est resté un mois. Mm-hmm. C'est vraiment insuffisant pour aller au fond des choses. Hein, c'est donc... je raconte un récit de découverte que j'essaie de faire partager. Donc c'est un regard de touriste, mais de touriste photographe, c'est-à-dire que moi j'essaie d'établir d'abord du contact avec les gens pour essayer de retransmettre à mes compatriotes ce que j'ai vécu comme contact avec ces gens qui sont nos frères humains. Tout simplement, parce que je pense que par la connaissance, on peut aimer. Et donc, voilà, je n'applique aucun jugement sur ce que je vois. Je respecte totalement, et d'ailleurs j'admire bien souvent, leur manière de vivre, parce que moi je serais bien incapable de vivre comme ça, comme peut-être eux seraient incapables de vivre comme moi. Ils en vivent.
On reviendra sur les expériences personnelles, mais bon, restons sur l'idée de la photo de voyage. Toi, Jean-Marc, c'est quoi la photo de voyage pour
toi ?
Moi,
je pense que le voyage commence à partir du moment où on sort de chez soi. Et à ce moment-là, ben, on est un peu à l'affût de quelque chose qui peut se passer, même ne serait-ce que dans sa rue. Là, on est dans la photographie de rue. Mais dès qu'on est un peu plus loin, eh bien, on peut repérer, je ne sais pas, un cadre où il peut se passer quelque chose. Et là, on se remet à l'affût. J'ai lu du Sylvain Tesson, par exemple, cet été, qui parle, lui, de son expédition pour observer la panthère des neiges. Et donc avec un grand photographe hein, qu'on connaît. Et bien, à son retour, il s'est dit, mais moi maintenant, je suis à l'affût de tout ce qui se passe autour de moi. Et bon, alors il n'est pas photographe, mais il a ce regard maintenant aiguisé parce qu'il est allé certes très loin, mais on peut rester vraiment dans un petit périmètre et faire un voyage mental, un voyage visuel, et je crois que c'est ça qui est important.
Alors c'est effectivement un petit peu ce qu'on a vu toute cet après-midi au travers des différents photographes qui étaient invités là, avec des expositions très différentes et donc des voyages très différents et des voyages qui peuvent être très intimes et d'autres complètement à l'autre bout de la planète. Au travers de ce que vous avez dit, j'ai entendu découverte, affût, humain, instantané. On reste vraiment dans quelque chose, il y a l'émotion. J'ai l'impression que la filiation aussi, c'est l'émotion. Et c'est marrant parce que le paysage n'est pas ressorti.
Il est partie intégrante de ce que l'on fait en photo, puisqu'automatiquement, quand on va à la découverte, d'un pays, la première des choses que l'on voit, c'est le paysage. Mm-hmm. Après, il y a le contact humain aussi qui est important. Et en fonction des endroits où l'on se trouve, il est plus fort que d'autres.
Alors toi, Edouard, justement, toi, c'est le Ladakh.
Oui.
Ça a été un voyage très particulier.
Oui.
C'est un traitement d'image aussi très particulier.
Très particulier. Je suis parti sur l'idée de, plutôt que de présenter des photos, une photo pour une photo, c'est-à-dire une image fixe, un paysage, un portrait, quelque chose comme ça. Je suis parti sur l'idée de présenter comme un carnet de voyage et de faire une association. Donc moi, quand les artistes, quand ils créent un carnet de voyage, ils prennent une page, ils font des croquis, ils ajoutent sur la journée qu'ils ont passée, ils ajoutent plusieurs croquis. Donc on a une synthèse de cette journée qu'ils ont passée, et après bah, ils mettent un texte. Bon, voilà. Et moi j'ai voulu faire la même chose, mais avec la photo. C'est-à-dire que intégrer plusieurs photos dans une image qui résume un peu l'ambiance que je veux présenter. Voilà, sans texte, puisque le texte dans une expo photo est destructeur par rapport à l'image.
Oui, puis là, c'est vraiment l'image qui est le cœur.
C'est l'image qui est le cœur de
le cœur de la narration, on va dire.
Tout à fait.
Ouais. Alors, là, on parlait de paysage. Du coup, pour le coup, il y en a quand même des paysages.
Oui.
Là,
oui,
on est vraiment sur du grand paysage.
Oui, grand paysage. En plus, c'est un espace très minéral. Hein. Et où, bien entendu, il y a l'humain qui est présent au milieu et qui vit dans des conditions qui sont quand même assez difficiles. Il y a des cultures. On se demande comment on peut avoir des cultures dans ces endroits.
On voit effectivement un petit plateau.
Dans ces endroits-là. Oui, oui, tout à fait. Ils appellent ça des fermes. Il y a une maison et puis quelques champs de culture. Et puis on fait une heure de marche, on retrouve une autre ferme, ainsi de suite. Tout est comme ça. Et par contre, il y a le côté humain qui est très important, qui est très dense, puisqu'entre eux, il y a une entraide. C'est-à-dire quand il y a les moissons, quand il faut aller récolter, eh ben, tout le monde vient et tout le monde s'aide. Il y a vraiment une symbiose entre tous ces habitants de ces contrées qui sont très éloignées, et puis en plus dans des conditions très difficiles, puisque le climat est assez rude. L'altitude aussi, puisqu'on est à 4000 mètres. 4000 mètres, et on monte même plus jusqu'à 5000, 6000 s'il y en a qui vivent aussi haut. Donc c'est un peu compliqué. Et donc ça nous permet, à nous, quand on est spectateur, de relativiser et de regarder ça avec humilité. Parce que nous, on se retrouve dans des conditions plus que confortables.
Alors, pour rester sur l'idée du paysage, Jean-Marc, tout à l'heure, on discutait en off et où tu me parlais d'une expérience que tu as vécue, notamment au Sénégal, par rapport à ces photos de voyage, où on disait que petit à petit, l'œil s'aiguise, l'œil s'affine. Et tu disais un peu la même chose que Jean-Pierre, à savoir qu'on ne reste pas assez longtemps. Pour faire un vrai travail, entre guillemets.
Si on découvre un thème au regard des pérégrinations, on se dit, ben, tiens, là, ça se ferait l'objet d'un thème. Mais on risque de l'épuiser très vite et se dire, mais il me manque, voilà, il me faut aller un peu plus loin. Et là, et donc, dans ce cas-là, il faut un voyage plus long. Il faut se donner les moyens de rester plus longtemps dans ce lieu, de faire du repérage, etc. Et c'est vrai que quand on a la chance, comme Pascal Maître, de partir des longues semaines et puis de faire tout ce travail en amont, là, oui, d'accord. Mmh. Mais bon, le photographe, enfin moi je ne suis pas photographe, je fais des photos, hein, c'est différent, mais quand je me retrouve dans des lieux, eh bien, je cherche un peu oui, des choses qui vont m'accrocher l'œil et qui peuvent constituer une petite série, quelque chose qui soit attrayant et qui soit plaisant à rechercher, à photographier.
Mais ça c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure.
Oui, tout
tu
à le, fait.
Tu, est-ce que tu as senti oui, c'est, là, voilà, le fait de, regard de, qui s'affiche.
Voilà, le fait de parler de la photo, de photos régulièrement avec des gens qui ont voilà, une grosse pratique et qui ont une expérience à faire partager, bien sûr, on acquiert des petites choses, on les retient et au fil des petits voyages, des déplacements, on se dit bah tiens, oui, là, oui, ça, c'est quelque chose à exploiter. Et voilà. Puis il y a aussi la lumière, lorsqu'on parlait de paysage, j'étais il n'y a pas très longtemps dans les monts du Cézallier pour une randonnée itinérante, c'est en Auvergne, c'est des très beaux lieux, on appelle ça la Mongolie française. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, ben tiens, voilà ça, on va faire des beaux paysages. Mais encore une fois, c'est la lumière qui fait la différence sur la composition qu'on peut trouver. Et moi, il s'est avéré qu'il a fait très beau, sauf le premier jour où c'était des nuages vraiment orageux. Et là, il s'est avéré qu'il y avait une belle photo à prendre, la lumière qui était là, présente. Et à tel point qu'il a fallu que je sorte de la voiture pour vite prendre cette photo. Et voilà. Mais après, ben, j'étais un peu sûr. Voilà, mais non, il faisait très beau, grand soleil. Bon, ça c'est bien, mais voilà. Donc,
ça a peu d'intérêt.
Voilà, en termes un peu moins, mais la lumière est là quand même. C'est le cœur de la photographie.
Mm-hmm. Et toi, Jean-Pierre, tu as parlé de portraits parce qu'effectivement, ce sont des portraits. Donc toi, tes voyages, c'est des voyages en humain.
Alors c'est d'abord l'intérêt pour l'humain. D'abord l'intérêt pour l'humain, bien sûr, mais la volonté aussi de replacer l'humain dans le contexte. Parce qu'on comprend encore mieux l'humain quand on voit dans quel endroit il vit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, notamment dans mon livre, il y a plusieurs paysages. Alors pas dans le sud, parce que bon, la savane avec la lumière très haute, 40 degrés à l'ombre, ça n'a aucun intérêt. Et donc dans le sud, j'ai fait très peu de paysages. En revanche, dans le nord, avec un paysage de haut plateau du Tigré, c'était beaucoup plus intéressant. Il y a des zones cultivées avec des cultures en terrasse que je montre sur les grilles de la piscine, par exemple. Mais également le paysage du Tigré qui sont des hauts plateaux extrêmement accidentés. C'est important de montrer dans quel endroit bien on a sûr traversé, où vivent ces gens-là. Au hasard des rencontres, bien évidemment, hein, j'ai fait un groupe d'enfants, par exemple, qui me regardent d'un air bizarre. Ils se demandent ce que j'ai à la main, si c'est une arme ou un appareil photo, parce que ceux-là n'ont pas forcément énormément de contact avec des touristes. Mmh. Et en plus, des touristes photographes. Dans le sud, ils ont beaucoup plus l'habitude, parce que comme c'est un pays où l'exotisme est très recherché, forcément, ils ont beaucoup plus de contacts avec des touristes photographes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sud, ils monnaient les photos, même si ça ne représente pas grand-chose. Et dans le nord, les prêtres vous accueillent les bras ouverts. Alors, bien sûr, vous laissez quelque chose pour l'entretien de l'église. Mmh. Mais pour moi, c'est d'abord l'humain.
Alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est la posture du photographe, effectivement, qu'il soit touriste ou qu'il soit professionnel, à la limite, là, peu importe, la posture du photographe vis-à-vis des populations. Toi, Edouard, dans le Ladakh, comment ça s'est passé? Parce qu'on ne peut pas y aller de but en blanc. Enfin, tu parlais de l'humain, on est sur l'humain. Donc, quelle posture on prend par rapport au respect, par rapport aussi à la simplicité de nos échanges. Ouais,
c'est le croisement des regards entre les personnes. Et on a l'appareil photo, on ne les pointe pas, on ne les vise pas directement. Il y a un croisement de regards, on peut faire un signe de tête, demander. Et on sent tout de suite si la personne est réceptive. Et là, on peut prendre la photo. Après, il y a l'aspect quand c'est un peu plus général. Quand on est à Alep, par exemple, une ville où il y a du monde, on ne va pas demander à tout le monde s'ils veulent la photo. Donc, on prend la photo, on ne se pose pas des questions. Mais par contre, quand on est sur des personnes individuelles, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine complicité. En anecdote, on est allé dans une ferme d'alpage. Alors les fermes d'alpage, c'est des murs en pierre et le toit, c'est une bâche. Et donc, on a été invité à prendre le thé dans cette ferme d'alpage. Et il y avait trois jeunes femmes. Mm-hmm. Et donc, on est rentrés, ils nous ont servi le thé et tout. Donc, voilà, j'ai demandé si je pouvais prendre des photos à l'intérieur. Elles m'ont dit oui, elles sont sorties. Donc, j'ai pris la photo de l'intérieur, du poêle, de tout ça. Et après, en partant, je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo devant la ferme, parce qu'il y avait les yaks, il y avait tout ça. Il y en a deux qui ont accepté et l'autre, elle a dit oui, mais par contre, elle s'est cachée le visage. Voilà. Donc, c'est des échanges qui sont comme ça et où, effectivement, il faut qu'il y ait le respect.
Ce respect, il est de toute façon... Enfin bon, il me paraît évident, mais justement, quand on est dans un club photo, qu'on a des nouveaux arrivants et arrivantes, des gens qui sont un peu néophytes, est-ce que ça fait partie des choses dont on parle de ça ?
Oui, oui, tout à fait. Lorsqu'on fait des sorties, notamment avec Olivier Chaumis, il va nous donner des conseils pour pouvoir commencer à parler à des personnes que l'on souhaite photographier, à établir un contact, comme on disait. Et là, à partir de là, on a un refus ou on a un accord. Et là, la personne sera un peu plus détendue, sans pour autant poser, parce que c'est ce qui est à éviter aussi. Mais au moins, il y a une acceptation de l'un de l'autre et les choses se font assez naturellement. Et moi, j'ai des souvenirs en Afrique, encore une fois, de parler avec des artisans, leur acheter un petit quelque chose et puis ensuite, naturellement, de leur demander de la photo. Et ça se faisait très, très facilement avec beaucoup de... Voilà,
De respect mutuel,
tout à fait.
Par rapport, tout à l'heure, vous parliez on a parlé de paysage et on parlait de lumière, parce qu'effectivement, c'est prépondérant. Bon, on est dans l'image, voilà. Peut-être donner un petit conseil en disant, c'est pas la peine d'essayer de tout photographier. Là, il y a des endroits qu'on ne peut pas capturer, soit parce qu'effectivement le moment est mal choisi, parce que la lumière n'est pas bonne, parce que etc etc. Et est-ce qu'il faut vous alors en tant que photographe un peu plus un petit peu plus rodé, on va dire quand même, est-ce que vous avez à des moments dit non celle-là je la fais pas de photo, un peu comme tu disais Jean-Pierre.
Oh ben moi ça m'est arrivé dans le sud. Les trois derniers jours, je suis tombé sur des tribus qui, avant même de me dire bonjour, me demandaient de l'argent. Mmh. Je peux pas. J'accepte totalement de payer parce que c'est la règle du jeu. Voilà, mais d'abord, il faut que j'établisse un contact, comme disait monsieur. Et le contact, il est d'abord de visu, c'est-à-dire la communication par le regard. Puis ensuite, cette volonté, en fait, du sujet de se donner. Mmh. Voilà. Et moi, je me donne après. Et donc, il y a un échange comme ça qui se fait. Et on voit très bien ensuite dans les portraits ceux qui se donnent et ceux qui ne se donnent pas. Il y a une photo qui est très, très indicative sur les grilles de la piscine. C'est une femme à plateau qui vend ses plateaux et qui est adossée à un arbre. Elle a dans une main un plateau et elle me regarde comme ça. Elle est tout à fait à la mode puisqu'elle a une crinière blonde, très à la mode, bien évidemment. Et elle s'est donnée. Voilà. Je pouvais rester un quart d'heure avec elle. On ne se comprend pas, mais on se comprend par les yeux.
Bien sûr. Quand je posais cette question, c'était surtout par rapport au paysage, en fait. Des photos de paysage que vous n'avez pas faites volontairement, parce que, encore une fois, comme tu disais, parce que c'est impossible à capturer.
C'est un problème de lumière qui donne envie ou pas. Voilà. Et quand vous n'avez pas envie, vous appuyez pas. Voilà, je suis purement intuitif. Moi, je ne vais pas calculer ce qui va. Il faut que ça me donne envie.
Bien sûr.
Les paysages du Nord m'ont donné envie parce qu'il y avait des nuages qui envoyaient des lumières particulières, de belles lumières. Il n'y avait aucun nuage dans le sud, la savane, donc vous voyez un paysage extrêmement plat, alors certes légèrement accidenté, mais bon, et avec des buissons, des arbres très bas, et puis 40 degrés à l'ombre, une lumière écrasante. Là, j'ai plus envie de respirer, de trouver un peu d'air, vous voyez, et j'arrive pas. Non, ça m'inspire pas, quoi.
Edouard ?
Moi, tout dépend. Moi, je travaille plutôt au premier regard. C'est, j'arrive à un endroit, quand je marche, hein, je vois, hop, toc, je sors l'appareil, je prends. Conditions de lumière, pour moi, peu importe, dans le sens, puisque moi, je suis plus, moi, je fais un énorme travail en post-production. Mmh. C'est plus ma partie majeure, puisque je suis animateur de traitement d'image. Mmh. Donc, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais moi, ce qui compte, c'est le premier regard. C'est celui qui porte le plus d'émotions. Parce qu'après, quand on se déplace, on marche, on dit, tiens, ça, c'est beau. On va un peu plus loin, c'est fini. On ne voit plus la même chose. Alors, bien entendu, si on fait tous les 10 mètres, on a toujours un coup de cœur. C'est compliqué.
Il y a des endroits comme ça.
Il y a des endroits qui sont... Oui, oui, puis surtout quand on est dans des contrées très éloignées où on sait qu'on ne va pas y retourner, on a tendance à prendre... Et puis, on est tributaire de l'horaire, hein, du soleil. On sait qu'on n'y retournera pas. Et si on passe à 11h ou à midi, si on ne fait pas de photos, cet endroit ne le verra plus. Mmh. Donc voilà.
Et en parlant du soleil, il y a deux moments dans la journée. Il y a l'heure bleue le soir. Lorsque le soleil s'est couché, et là, il y a une lumière particulière. Et le matin, l'heure dorée, et là, lorsqu'on est présent à ces moments-là, devant quoi que ce soit, en fait, un paysage, pourquoi pas, il y a une sublimation qui se passe. Oui.
Alors, vous avez parlé d'émotion, parce qu'on a eu, plusieurs autres photographes qui étaient... qui ont parlé du voyage, encore une fois, de façon très différente, mais que ce soit Franck Fouquet ou Pascal Maître, avec Pascal Maître, on a parlé d'émotion aussi. Et je crois que c'est vraiment... et puis tout à l'heure, Pascal Santenac aussi parlait d'émotion. C'est vraiment quelque chose... Moi, en tous les cas, ça me fait beaucoup de... En tant que néophyte complète en matière d'image et de technique, surtout, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Où on revient, moi j'ai l'impression qu'on revient vraiment à l'essentiel finalement, qui est cette émotion. Après, l'outil, la technique n'est qu'un outil. Donc, et est-ce que ça, vous ressentez ça de plus en plus ?
Ou pas de plus
plutôt
en plus,
que l'esthétique enfin voilà.
Ah oui, c'est aussi, d'abord c'est d'abord ça. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que j'aie envie, il fallait que ça me crée une émotion. Mmh. Et à partir de là, la photo se fait naturellement. L'émotion, c'est d'abord ça prime la technique. Puisque de toute manière, on va la traiter après. Donc, effectivement, on peut la traiter de différentes manières. Tout en restant... Enfin, moi, je reste assez près des conditions de prise de vue.
D'ailleurs, cette exposition sur l'Éthiopie, elle est en noir et blanc. Il y a un traitement très particulier. Pour ce choix, il vient d'où ?
C'est d'abord, moi j'aime les photos contrastées, j'aime le noir et blanc et j'aime les photos contrastées. Donc j'aime que dans le noir et blanc, il y ait du noir, du blanc et un peu de gris autour. C'est pas l'école de Weston, vous voyez, Edward Weston, qui lui était essayé de traduire tous les gris. Moi, je suis plutôt Salgado, vous voyez.
Pourquoi ce choix du noir et blanc pour le
j'ai commencé, alors comme je travaille en numérique, on a toutes les informations, hein, donc en photographie avec toutes les couleurs. J'ai commencé à exploiter les photos en couleurs et j'ai trouvé que c'était mièvre, c'était daté. Ça typait trop temporellement la série. Et j'ai commencé à les travailler en noir et blanc. Et là, le noir et blanc a rendu la série intemporelle. C'est une des vertus du noir et blanc, si vous voulez, de rendre les choses complètement intemporelles. Et avec plus de caractère également, c'est beaucoup plus fort. Enfin, pour moi, hein.
Par rapport à ce que tu voulais faire.
Non, mais quand on a vu Pascal Maître hier, on sait très bien que la couleur peut être très forte. Hein. Mais je m'attache souvent à faire des photos où il ne se passe rien. C'est pour ça que j'ai posé la question hier soir. J'aime beaucoup de pardon pour ça, parce qu'il réhabilite finalement la photo que fait le photographe d'un endroit devant lequel tout le monde passe. Et personne n'y prête attention. Et le boulot du photographe, c'est justement de le montrer. Et quelques, enfin moi, je photographie des trucs où il se passe rien, quoi. Il se passe quoi ? Il se passe simplement de l'émotion. Voilà. Ça n'a rien de spectaculaire. Le traitement en couleur, ça faisait trop carte postale. Ça faisait trop photos de touristes, vous voyez. Et quand je les traitais en noir et blanc, là, ça prenait une force, une intemporalité, et ça inscrivait la série dans une autre dimension. À mon sens.
Et Edouard, alors toi, comme tu le disais tout à l'heure, toi, c'est un traitement très particulier
très
derrière.
Très particulier, oui.
Mais qui rejoint, enfin, vous rejoignez dans cette
alors
démarche.
Moi, je suis parti sur une base de carnet de voyage. Mais ce que pour ajouter ce qui a été dit, nous, on sort d'une école photographique amateur qui était l'argentique noir et blanc. On travaillait dans les labos, on développait nos photos, on faisait nos tirages en noir et blanc. Donc on fait partie de la génération noir et blanc.
Bien sûr.
Donc c'est quelque chose qui est très marqué. Moi j'adore le noir et blanc. C'est quand je fais un reportage ou un voyage, j'ai mes photos couleur, mais elles sont toutes automatiquement traitées en noir et blanc. J'ai version couleur, version noir et blanc. Et après, en fonction de ce que je ressens, comme là pour le Ladakh, je ne pouvais pas les mettre en noir et blanc. Puisque pour moi, la couleur s'imposait, puisque je partais sur une base d'un carnet de voyage. Mmh. Et pour moi, le carnet de voyage, c'est l'artiste qui, souvent, avec son aquarelle, des couleurs.
Fait ses croquis.
Voilà, fait ses croquis avec ses couleurs.
Super. On revient au club.
Oui, le photographe amateur, oui. Ouais. Alors lui, il peut éprouver des émotions très fortes. Et là, il va falloir qu'il les contrôle, ses émotions, pour ne pas faire de fausses manipulations, de se tromper, d'ISO, se tromper de mise au point. Et c'est là tout l'art du le vrai photographe, lui, va être en contrôle complet, ouais. Alors que l'amateur, il va se précipiter et au risque de faire des erreurs. Voilà, c'est ça. Mais les émotions, oui, on en a, bien sûr.
On peut peut-être quand même dire, en conseil à celles et ceux qui nous écoutent, ne prenez pas tout et n'importe quoi en photo parce que ça n'a pas d'intérêt. On revient tout à l'heure, Franck Fouquet nous disait qu'il avait fait 30 000 photos sur 8 mois aux Nouvelles Hébrides. Mais le Pékin moyen, moi je me mets dedans, on revient avec 350 photos, on n'y regardera jamais.
Il y a le mot cliché, hein. Il y a le mot cliché qui en dit long. Bon, on fait des clichés, puis il y a le cliché qui est banal. Enfin voilà, c'est.
Bon, moi, je ne partagerai pas vraiment ça. Photographier, accumuler. Et avec le temps, la décantation se fait.
Ah oui. Ouais.
Et voilà. Et ensuite, pourquoi le choix du noir et blanc par rapport à la couleur ? Vous avez deux exemples. L'Éthiopie en noir et blanc.
Et les États-Unis
et Wilson en couleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sujets où la couleur s'impose et des sujets où le noir et blanc s'impose.
Bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vous rappelle que donc on arrive à la fin de ce grand direct avec ce fil rouge voyage cet après-midi. Ce sont les 20e rencontres de la photo de Chabeuil. Je vous le rappelle, c'est à Chabeuil, comme son nom l'indique. Vous avez une dizaine de lieux. Vous avez des conférences. Alors, on vous rappelle quand même qu'effectivement, normalement, c'est toute la semaine. Là, ce sont que sur les week-ends. Donc, c'est sur ce week-end, ça se termine à 19h. Vous avez encore jusqu'à 19h pour venir voir les expos. Le week-end prochain, c'est de 10h à 19h, les deux jours. Venez rencontrer les photographes qui sont là pour partager. Vous voyez, ils sont passionnants, ils sont passionnés et passionnants, donc et passionnantes. Donc, n'hésitez pas. Il y a de plus en plus de femmes, ça fait aussi plaisir. C'est encore autre chose, mais ça s'ouvre. Il y a aussi dans la semaine, donc il n'y a pas accès aux expositions, mais par contre, il y a accès aux conférences débats. Et on retrouve donc mardi 14 à 20h30 Pierre de Vallombreuse et mercredi 15 septembre à 20h30 aussi Jean-François Noblet. Et puis il y a aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, les conférences, donc vendredi 17 septembre à 20h30, c'est Hubert Barré, à travers mon regard, et la dernière conférence, c'est dimanche 19 septembre à 15h, ça sera avec Camille Kirnidis. Et puis il y a la soirée des photographes aussi.
Samedi prochain, 18 septembre. Voilà, donc c'est le repas des photographes. Hein, donc il y a des prix qui vont être remis. Et donc c'est une soirée assez joyeuse hein, dans l'ensemble. Et on s'amuse un peu. Et voilà, on clôture. Bon, même s'il y a encore la journée de dimanche, on clôture cette 20e édition des rencontres.
Alors, on n'a pas parlé des jurys, effectivement, on n'a pas parlé des jurys, parce que voilà on est. On
ils
a
sont,
parlé images.
Ils sont au travail, ils sont au travail.
Ils sont au travail. Donc, voilà, et il y a aussi un prix public.
Le prix du public, voilà.
Voilà, donc il y a prix du jury et prix du public.
Il y a une urne ici à l'entrée du centre culturel où on peut donc donner son vote.
Donc venez, voilà, n'hésitez pas à voter aussi parce que c'est une manière aussi de remercier les photographes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Véro comme toujours, ma super régisseuse d'enfer.
J'écoute avec beaucoup d'attention.
Vous retrouverez tous les échanges de la journée en podcast sur le www.radioblv.com dans la semaine. Laissez-nous le temps de mettre tout ça en ligne. Et puis, ben, encore une fois, venez aux rencontres de la photo et on souhaite les retrouver pendant encore très longtemps parce que c'est vraiment un événement important et qui fait partie de notre calendrier. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Véro et à très bientôt.